Alléluia. Seigneur, je prie vraiment pour ta grâce simplement. On te loue vraiment pour le temps de louange ce matin. On a vraiment senti ta présence. Je te loue pour cette grâce de pouvoir vivre des temps si forts de ton onction. Merci que tu nous as placés devant toi. Merci que tu es au milieu de nous. Merci pour cette parole d'encouragement de Marguerite aussi qui nous a vu, qui revoit en nous des fils et des filles dans chacun de nous. Et nous, Seigneur, nous recevons aussi cette parole. Nous recevons vraiment cet encouragement de ta part. Seigneur, donne-nous d'aller plus loin de l'avant avec toi. Et merci d'être les uns avec les autres. Merci pour cette immense grâce, cette richesse d'être les uns avec les autres. Seigneur, nous louons ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, les deux dernières fois que j'ai parlé sur le... Est-ce que quelqu'un se rappelle ? Sur le royaume de Dieu. Merci. La première fois, j'avais parlé du fait qu'en fait, dans le monde, il y a une montée d'empires. Ils grandissent, ils croissent, ils établissent leur puissance. Puis à un moment donné, ils s'écroulent et puis il y en a d'autres qui prennent leur place, etc. C'est les nations qui essaient de se réunir, d'être fortes ensemble. Il y a des princes, des rois, des empereurs. Et malgré tous leurs projets, malgré des fois leur méchanceté, des fois malgré l'occultisme, tout ça, eh ben, le Seigneur aime ses empires, aime ses nations, aime ses princes, aime ses rois, et même il leur parle. Il se révèle à eux. Vous rappelez Nebuchadnezzar, vous rappelez Cyrus. Hein, ce n'est pas des exemples, et pourtant Dieu a parlé au travers d'eux. Et dernièrement, je lisais même l'histoire du pharaon Necho. À un moment donné, il part en bagarre, il part en guerre. Il doit passer par Israël, et puis il voit le roi Josias. Josias, c'était un super roi d'Israël qui était revenu à Dieu de tout son cœur, qui avait aimé Dieu de tout son être, qui avait vraiment mis de l'or dans la nation. Et puis voilà que Pharaon lui dit, « Dieu m'a dit d'aller en guerre et il ne faut pas que tu restes sur mon chemin parce que sinon, tu risques d'y laisser ta peau. Et c'est Dieu qui me le dit. » Et qu'est-ce qu'il fait Josias ? Josias, dans sa perception habituelle, bien évangélique certainement, il dit, « C'est pas possible que Dieu parle à un mécréant. C'est pas possible que Dieu parle à un tel roi, un tel empereur, un pharaon, et que Dieu lui parle et que moi, il ne me l'ait pas dit. Fatalement, il est en train de me berner, de me raconter des histoires. Fatalement, Dieu sera avec moi. Je vais aller contre lui et il va voir ce qu'il va voir. » Eh bien, Josias est mort. Et la parole de Dieu nous dit, et Dieu avait parlé au travers de Pharaon. Dieu parle aux autorités de nations. Il se révèle à eux. Pourquoi ? Parce que Dieu aime les nations. Dieu n'a jamais renoncé aux nations, quoi que ce soit qu'elles aient faites, quoi que ce soit leur projet, quoi que ce soit leur histoire, Dieu ne renonce jamais aux nations, il les aime. Et parce qu'il aime les nations, il aime leurs chefs, quels que ce soit des rois, des empereurs, quel que soit leur état, quelle que soit leur vision, quel que soit l'état de péché, Dieu veut travailler avec eux parce qu'il aime leurs nations et leur peuple. Et donc, même ce pharaon-là, Dieu lui avait parlé. Et on voit ça plusieurs fois que Dieu parle à des rois ou à des empereurs dans la parole. Mon deuxième message, c'était sur le fait que bien qu'il y ait des nations qui essaient de bâtir leur empire et tout, Dieu avait déjà un plan depuis longtemps, bien avant eux, de bâtir un empire mondial. Vrai ou pas vrai ? Vrai, hein ? Le royaume de Dieu, c'est un autre mot pour dire l'empire mondial. Mais c'est un empire mondial où Dieu sera prince, il sera roi, qui marchera selon des principes bibliques, selon dans l'amour, dans la justice, dans la paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Voilà la loi du royaume. Voilà la loi de l'empire que Dieu veut mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il va écraser les nations et dire « Vous avez été que des nouilles, vous êtes opposés à moi, tant pis pour vous. » Non, il veut la guérison des nations. Il cherche la guérison des nations. Il ne va pas les écraser et les détruire quand il reviendra. Il va les guérir et leur apprendre à marcher dans un royaume où elles trouveront leur place, leur valeur, leur identité, etc. Elles vivront certainement des sozos. Hein. Merci. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer sur une troisième partie sur le royaume de Dieu, où cette fois, c'est un royaume qui... Le titre, je n'aurais pas pu trouver mieux qu'un royaume qui s'incarne. C'est-à-dire, Dieu a vu une vision d'un royaume mondial, et ce royaume est déjà, quelque part, il est déjà là. Il est en train de s'incarner, et il s'incarne au travers d'un peuple, de deux peuples, le peuple d'Israël et le peuple de l'Église. Et ça me permet en fait de faire un lien avec ce qu'on a vécu à Bordeaux quand on est parti avec Luc, Denis et Christophe, parce que le titre de la conférence, c'était L'incarnation du royaume. Donc cette conférence, en quelques mots, je vais essayer de vous rappeler simplement le contexte. Donc en fait, vous savez qu'on est couvert par on fait partie d'un réseau actuellement qui s'appelle l'Axe Rhin-Rhône. Cet Axe Rhin-Rhône est en train de se restructurer, de peut-être de changer de nom. Il y a un noyau de 4 personnes qui a été mis en place, dont Luc fait partie, avec la reconnaissance d'une autorité apostolique sur Luc. Je crois que c'est important que vous le sachiez. Il y a Gilles Blanc, Pierre Cranga et Alain Rindel qui sont dans ce noyau. Et ce réseau, dans lequel on fait partie, qui nous couvre, et avec lequel on veut travailler avec, il est en train de réfléchir à devenir lui-même un réseau apostolique, ce qu'il s'était refusé pendant longtemps, et de se connecter à un autre réseau qui est un réseau national. Et je pense que c'est important parce que dans national, il y a nation. Dieu aime, ce que j'ai dit tout à l'heure, les nations. Dieu aime notre nation de France. Dieu a la vision de la nation de France. Dieu la voit guérie. Dieu la voit restaurée. Dieu la voit en train de marcher dans son identité. Et dans ce cas-là, c'est important qu'on travaille non pas simplement sur nous-mêmes, ni même simplement sur notre ville, mais on doit avoir la vision de notre région, de notre territoire et de notre nation. Et pour ça, c'est important de se connecter à ce qui se fait dans la nation. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on réalise tous ensemble que donc ce groupe Axe Rhin-Rhône veut se greffer sur un groupe qui est en train de devenir national, de se répandre sur tout le pays, qui s'appelle le réseau Nouvelle Connexion. Ce réseau Nouvelle Connexion, il rassemble des réseaux, justement. C'est un réseau de réseaux. Ça nous parle, puisqu'on aime tout le monde aime bien aller vite sur Internet. Internet, c'est un réseau de réseaux. Eh bien, on fonctionne selon le même principe. Le peuple de Dieu est en train de se rassembler. Et même si on a des identités propres, chacun a une identité différente peut-être par rapport à d'autres groupes, eh bien, on se rassemble les uns aux autres dans la même foi et dans la même espérance. Donc, je voulais présenter un peu rapidement la vision de ce groupe, de ce réseau. Ils veulent proclamer et incarner l'évangile du royaume sur un plan local, national et francophone. La vision, ce n'est pas que la France, c'est la francophonie. Et notre vision, elle est dans le même plan. Donc la vision, c'est d'implanter, d'affermir des églises vivantes, s'engager dans la société au niveau culturel, social, éducatif, économique, etc. Il y a deux réseaux principaux, trois réseaux principaux. Il y en a deux dans le sud-ouest et un dans le sud. Dans le sud-ouest, je pense qu'il y a des noms que vous connaissez avec Jean-Marc Potenti, André Debenest, Fabienne Pons, Mourad, qui a des chambres des guérisons. Il y a aussi un pasteur de Strasbourg, Claude Guettner. Il y a Luc Maroni. Luc Maroni, c'est un pasteur qui est à Lens. Et ce pasteur est adjoint au maire. Il faut que vous sachiez qu'il a été appelé comme pasteur là-bas. Et un beau jour, le maire, voyant tout ce qu'il faisait dans son église et dans la ville, est venu le chercher. Il l'a pris par le collet, comme ça, à peu près, hein. J'imagine, mais j'exagère, mais c'est presque ça. Il a dit, j'ai besoin de toi au niveau de la mairie. Tu vas venir. Alors, Luc, il a été là-bas. Il a été aux réunions de la mairie préparatoire. Et il s'imaginait être un simple petit conseiller. Et puis voilà que le maire le place comme adjoint au maire. Et effectivement, il a dit, c'est quelqu'un que Dieu met en place et c'est un prophète aussi. Et je pense que c'est important qu'on le soutienne dans la prière. Il y a un réseau dans le sud, avec Montpellier, Aix-en-Provence et d'autres villes, et en particulier avec Rodrigue Sacramento, etc. Je pense que c'est des noms qu'on réentendra. Rodrigue Sacramento est déjà venu chez nous. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Il est venu avec les jeunes, hein, c'était ça? Voilà, on avait un beau contact avec lui, avec le groupe de louanges. C'est des réseaux apostoliques. Ça veut dire que c'est vraiment le désir d'établir le royaume de Dieu en reconnaissant l'onction apostolique que Dieu met sur son peuple. On a reconnu l'onction prophétique et on est en train de rentrer dans l'onction apostolique qui est pas seulement annoncer la parole de Dieu, mais que la parole devienne chair. Je pense que c'est le but de l'onction apostolique, que la parole de Dieu devienne chair. Ça veut dire qu'elle s'incarne et qu'il y a des actions concrètes qui se passent dans le pays et que la nation soit changée. Alors, j'ai recueilli quelques paroles des pasteurs qui ont parlé pendant cette conférence. Tu veux bien passer la première diapo, Aurélie? Merci. Donc Jean-Marc Potenti, donc c'est quelque part le responsable principal de ce réseau. C'est vraiment un apôtre. Et alors il nous a les deux trois phrases que j'ai retenues. Le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant. Ça veut dire que maintenant le royaume de Dieu, on veut le voir arriver. On veut le règne du Père, le règne du Fils. On veut la guérison. On veut la justice, on veut la paix, on veut que ce ne soit pas des lois iniques, on ne veut pas des lois qui s'opposent à Dieu, où c'est la pensée humaine qui a dirigé sans quoi que ce soit que Dieu ait le droit de dire, mais des lois qui glorifient Dieu. Et la présence de Dieu dans tous les domaines qui touchent à notre vie, tout simplement. Deuxième pensée, les professionnels de la société sont des ministères. Ça veut dire que les ministères, c'est ce qui est là pour servir le corps. Et le corps, on peut considérer que soit ce soit l'Église, soit que ce soit la nation. Tout professionnel est quelque part, pas seulement à son service, mais au service de quelqu'un d'autre, au service d'un corps, au service d'un groupe. Et Dieu considère ça comme un ministère, d'autant plus si tu es croyant, si tu es fils et fille de Dieu. Là où tu es planté, Dieu a fait de toi un ministère. Ce n'est pas que dans l'Église. Dans l'Église, il y a 5 ministères qui sont bien connus, tout simplement. Mais ce n'est pas les seuls. Les ministères sont nombreux. Ils sont dans la société. Le ministère, c'est service. Ils servent la société d'une façon ou d'une autre. Les 5 ministères se retrouvent dans toute organisation sociale. Ça veut dire que dans toute organisation sociale, entreprise, association, quoi que ce soit, il y a des cœurs d'apôtres, il y a des cœurs de prophètes, il y a des cœurs de pasteurs, des cœurs d'évangélistes, des cœurs d'enseignants. Ça veut dire que quelqu'un qui parle au nom de Jésus, là où il est, il devient un enseignant, il devient un évangéliste. Il peut être pasteur parce qu'il est en train de soigner des cœurs, de soigner des âmes, de prendre soin de groupes. Il y a un cœur de berger qui se développe. Il y a la volonté d'implanter des églises, des œuvres et des... J'ai mis en police 30-28, j'aurais dû le mettre en 152, ou en 500 peut-être. Et des écoles. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce qu'on veut implanter des écoles? Amen. C'est l'actualité de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est à lui qui l'a dit. Hein. L'actualité de Dieu. Luc nous a parlé tout à l'heure des gens de Steam. Leur vision a été révolutionnée. Dieu leur a parlé des écoles, etc. Eh bien, il y a une vision d'implanter des écoles. Et je pense qu'une de nos visions principales, quelque part, ça doit être celle-ci. Qui est-ce que plus que nous peut être touché par cette vision d'implantation d'écoles? On n'a pas juste notre école à s'occuper, faisons-le au maximum, mais ayons la vision d'implanter des écoles parce qu'il y a des enfants ailleurs qui attendent. Est-ce que vous entendez les cris d'autres enfants qui veulent être enseignés selon la parole? Tu veux passer la diapo suivante, s'il te plaît? Donc c'est Rodrigue Sacramento, donc c'est le pasteur de Montpellier. Donc ça s'appuie sur le verset Romains 8, 19, la création attend ardemment la révélation des fils de Dieu et des filles. Donc première pensée, nous sommes des fils et des filles. Et qu'est-ce que Dieu veut avec ses fils et les filles? Dieu ne les envoie pas d'abord dans les champs. Dieu veut les rencontrer. Il veut être à table avec eux. Il veut manger avec eux. Et ce matin, même dans la louange, ou même hier soir déjà, c'est comme si quand je venais à table et Jésus me disait, si tu veux bien te mettre à côté de moi, est-ce que Jésus vous a déjà dit ça? Moi, j'ai toujours eu peur un peu d'être à côté de quelqu'un d'autre. Je me suis dit, est-ce qu'il m'appréciera? Est-ce qu'il se sentira bien? Je n'étais pas sûr. Hein. Et alors Jésus, je pense qu'il y en a bien plus qui sont dignes d'être à côté de lui. Et pourtant, Jésus, à chacun de nous, il vient et dit, est-ce que tu veux t'asseoir à côté de moi? Et après, tu as une autre voix qui vient à ta droite et puis qui dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? D'accord? Ça, c'est la rencontre avec le Père, le Fils et l'Esprit. Nous sommes invités à la table, nous sommes invités au salon, là où vous voulez, là où Dieu vous conduit. Dieu veut nous rencontrer. Quand il nous rencontre, il nous parle, il nous guérit, il nous transforme, il nous enseigne. Nous sommes enseignés partout où Dieu nous place, même à l'église, etc. Par les études de la parole que nous faisons, nous sommes enseignés, nous sommes formés, on fait des sozos, tout ce qu'on veut, on est travaillé, on devient disciple. Et alors, Dieu veut nous révéler. Les fils et les filles, Dieu les... J'entends pas. Dieu les révèle. Dieu veut te révéler. Dieu veut te révéler. Dieu veut te révéler. Il a révélé son fils, il révèle tous ses fils. À un moment donné, Dieu dit, j'en ai assez de les avoir cachés. Je les ai cachés dans mon sein, je les ai aimés, je les ai enseignés, mais un jour je les révèle, je les montre. Parce qu'ils ont une œuvre à accomplir, une destinée. Deuxième pensée, ce sont des, mes fils et mes filles, ce sont des sauveurs. Ils marchent comme mon fils, ce sont des libérateurs. Ils sont appelés à libérer des gens, des familles, des villes, des nations, des héros. Il disait même des super-héros. Nous sommes des héros. Est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est pas biblique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été appelé un héros dans la Bible, de façon claire et évidente? Gédéon, Dieu est avec toi, vaillant héros. Ça ne doit pas être lui, il y a erreur sur la personne. Ben non. Effectivement, t'étais bien, c'est bien héros, même s'il ne le savait pas, et même si autour de lui on ne le savait pas. Dieu le savait, et il l'a déclaré, et on l'a vu. Il a été révélé comme un héros. Il y a eu des princes qui ont d'abord passé par la case prison, la case rejet, la case presque mort, la case trahison, tout ce que vous voulez, et qui sont devenus des princes. Nous sommes des princes, nous sommes appelés à être comme Joseph. Joseph est un modèle. Tu veux passer à la suivante? Ensuite, on a eu Raphaël. C'est la 13. Merci. Donc Raphaël, c'est un pasteur malgache. On ne connaît pas son vrai nom parce qu'il risquerait des gros soucis. Donc il est maintenant dans le sud-ouest et on l'appelle... Comment? Il s'est un converti d'islam. Voilà. Donc lui s'appuyait en grande partie sur Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oint pour. Alors vous avez vu, j'ai mis trois petits points. Vous ne le voyez pas, hein? Il nous a oint pour. Je voulais marquer par là. On est oint pour quelque chose. Je ne sais pas tout. Tu ne sais peut-être pas tout. Tu sais qu'il y a certaines choses qui sont déjà dans la parole. Mais Dieu, de toute façon, t'a oint pour quelque chose. Quoi que ce soit que Dieu ait mis devant toi, Dieu t'a oint pour ça. Tu es oint. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Va. Va dans ce que tu as à faire. Va dans ce que Dieu te demande. Et Ésaïe 61 et 58, il appelait ça le programme politique du Seigneur. Et je reprenais aussi la phrase de quelqu'un d'autre qui a parlé à un moment donné que l'école biblique du Seigneur, c'était guérir les malades, chasser les démons, enseigner le royaume. Voilà ce qu'a été l'école biblique du Seigneur. On les retrouve dans ces passages. Il nous appelait aussi, il rappelait qu'on était les ambassadeurs de l'amour de Dieu. Nous avons les pleins pouvoirs, sans volonté propre ni revendication personnelle. Amen. Tu peux passer à la 15, je vais passer à la 14. Luc Maroni, donc je vous ai dit qui c'était, et il nous a dit une phrase, il a dit que les députés et les sénateurs qu'il rencontre, ils disent, les chrétiens, vous êtes ouf. Les chrétiens, vous êtes ouf. Et il y en a qui disent, même en aparté, sans vouloir le dire trop fort, les chrétiens, vous êtes le seul rempart contre l'islamisme. Hein? Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce qu'on n'ose pas le dire? Ils savent qu'il y a quelque chose chez les évangéliques qu'ils ont besoin. Ils vont pas le dire à la radio, ils vont pas le dire à la télé. Oui? Vas-y. Amen, tout à fait, exactement. Alors lui, il continue, il a parlé ensuite, il faut sortir de la boîte. Alors il avait deux pensées particulières, le sel et la lumière. Vous savez, rappelez que le sel est dans une petite boîte et la lumière, si vous prenez des allumettes pour avoir de la lumière, elle est aussi dans sa boîte. Il disait, c'est le temps de sortir de la boîte. Le sel protège contre la corruption et la pourriture. Il rappelle que Dieu aime les hommes, il ne veut pas les détruire. Le sel, Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu ne veut pas détruire la terre. Il est en train de la préserver de la corruption. Il ne veut pas que la corruption se répande, que la gangrène se répande. Il met du sel parce qu'il ne veut pas la détruire, parce qu'il l'aime, il la protège. Et Dieu nous voit comme ça, comme du sel. Tu es la protection de l'endroit où tu es. Tu es ce qui même peut donner, on pourrait dire, donne du goût à l'endroit où tu es. Dieu semble. Est-ce que le sel, c'est bon? Est-ce qu'un repas sans sel, c'est bon? Quelque chose qui, a priori, semble pas très bon, rend quelque chose bon. C'est bizarre. Alors, tu te regardes, tu te dis, oh, c'est pas génial, hein. Je sais pas si ça devient de moins en moins, est-ce qu'on est d'accord? De plus en plus, on réalise qu'on est bien. Amen. On rentre dans notre guérison. Mais on réalise qu'on n'est quand même pas parfait. On n'est pas, il y a encore plein de choses qui devraient être changées, guéries. Bon, on est comme ça. On a l'impression qu'on a un ciel sans goût. Mais là où tu es, là où tu vis, tu donnes du goût. Tu y es pour rien. C'est ta nature, tu es du sel. Et tu rends pour Dieu l'endroit où tu es, ça sent bon. J'ai envie d'en manger. Amen. Ça plaît à Dieu parce que tu y es, tout simplement. Et les gens qui sont autour de toi sentent ce goût. Ils ne vont pas nécessairement te le dire. Ils vont même te faire l'impression, waouh, tu sens le sel un peu. Mais dans leur cœur, oh, qu'est-ce que c'est bon d'avoir. Il y a quelque chose qui fait que c'est bon. La lumière, elle chasse la nuit. Elle amène le jugement de Dieu qui éclaire les hommes, pas pour les détruire, mais pour les délivrer. Amen. J'ai passé la 15, la 16, c'était intéressant, mais ça ferait trop long. Donc, nous sommes sel et lumière. Donc, il disait, le sel, quelque part, se dissout dans l'eau, on ne le voit plus. Tu prends la couleur de l'endroit où tu es. Tu fais quelque part, tu vis comme les autres. Tu ne te rends pas nécessairement différent par ton langage. Tu n'essayes pas de te démarquer. Tu es comme les autres. Quand on regarde a priori, ben, il n'y a pas de différence entre toi et les autres. Tu fais partie. Tu es avec. Tu marches à leur côté. Et puis en même temps, quelque part, tu es aussi lumière. Ça veut dire que quand quelque chose finalement s'oppose vraiment à Dieu, tu prends ta couleur. Là, tu commences à te démarquer. Tu ne vas pas le faire à chaque fois. Tu ne vas pas nécessairement toujours contester ce qui est dit. À un moment donné, tu reconnais, oui, d'accord, j'accepte. Et puis à un autre moment, tu deviens lumière. C'est-à-dire, tu montres que Dieu aime, mais qu'il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Tu prends une couleur différente parce que tu es lumière. Et ça, tu ne peux pas le savoir a priori. Tu ne peux pas te faire une fiche technique. Ça, je peux dire, ça, je ne dis pas. Ça. Tu es à l'écoute de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui déverse en toi sa vie, sa nature, sa sagesse, sa connaissance. Et à un moment donné, tu sais que tu es sel. À un moment donné, tu sais que tu es lumière. À un moment donné, tu sais que tu es comme les autres. Tu es avec eux, tu marches à leur côté. Tu vas au cinéma avec eux, tu prends un repas avec eux. Tu vis comme eux. Tu parles peut-être un peu comme eux. Et puis à un autre moment, tu dis, ah non, ça, je ne peux pas. Par exemple, l'alcool, je ne peux pas boire cet alcool de trop. Je ne peux pas boire mes 4-5 verres, ma bouteille, etc. J'exagère un peu. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Tu sais à quel moment tu es sel, quel moment tu es lumière. Mais c'est ça jamais pour juger. C'est toujours pour le bien de l'endroit où tu es. Et alors, je voudrais passer à la 17. Une histoire de grains. Hein, le sel, c'est fait de grains très fins. La lumière, vous savez que c'est aussi des grains. On appelle ça les photons. Les photons de lumière, c'est une des plus petites particules qu'on puisse imaginer dans la création. C'est un grain de lumière. C'est tellement fin qu'il faut des appareils immenses pour les voir. Mais c'est tellement bizarre aussi que ce grain-là, j'en parlerai plus tard. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces grains ? On ne voit pas grand-chose. C'est tout petit, c'est minuscule. Mais qu'est-ce qu'il y a en eux ? Il y a de la vie et de la puissance. Dans le grain de sel, je mets mon grain de sel dans cette histoire. Dans le grain, il y a quelque chose qui donne de la valeur, qui préserve de la mort. Amen. Le grain de sel préserve de la mort. Tu préserves de la pourriture. Tu es quelqu'un qui préserve. Tu amènes de la vie. Et dans la lumière, il y a de l'énergie, il y a de la puissance. C'est des grains d'énergie. C'est des grains de puissance, d'une puissance extraordinaire. L'énergie lumineuse, c'est la plus grande puissance dans le monde. Tu es lumière. Tu es grain de lumière. Tu entends une énergie puissante, immense. Et alors il y a un troisième grain que je voulais ajouter. Il est un autre grain. Le Seigneur a parlé du grain de blé, le grain de la semence. Il a parlé du grain de sénévé, ce petit grain qui ne vaut rien. Ce petit grain qui n'a pas de mine, qui n'a pas d'apparence. On dirait qu'il est mort pendant des dizaines d'années. Il peut n'être rien, reposé dans un sac, dans un sol. Il ne sert à rien. Et d'un coup, qu'est-ce que je fais? Je le mets en terre. Et qu'est-ce qui se passe avec ce grain quand il touche la terre? Il meurt. Première étape. Il faut qu'il y ait une étape de mort. Mais après la mort, qu'est-ce qui se passe? La vie jaillit. La puissance de vie. Et j'ai beaucoup aimé ce que Werner, tu peux passer la Diapo suivante, Werner, vous rappelez ce qu'il a partagé la semaine dernière? Il a parlé de la dormance. Hein, Werner? Et moi, j'étais dans la même semaine, j'ai été travaillé par la même idée. Cette idée que le grain, il est là, rien ne se passe. On ne peut rien en faire. Et puis un jour, il est mis dans des circonstances et dans des conditions telles que la vie jaillit. La semence contient une immense puissance de vie, mais elle n'est mise en route que lorsqu'elle est mise dans certaines conditions. Il faut qu'elle soit sortie de sa boîte, sortie de son sac, jetée dans la terre, arrosée par la pluie. Et alors, la coquille se brise. Werner le dirait sûrement mieux que moi. La vie sort. La plante peut commencer à pousser et elle peut commencer à porter son fruit. Et le grain qui se met en activité de vie dans la terre devient germe. Verset 19, la 19. Psaume 65, 10. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises. En arrosant les sillons, en aplanissant les mottes, tu la détrempes par des pluies et tu bénis son germe. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le germe. Le germe contient la vie. Le germe, c'est ce qui est capable de pousser le béton et de faire ça sortir la plante. C'est ce qui amène la vie partout où il va. Sans germe, il n'y a pas de vie. Matthieu 13, 37, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Le Seigneur, il prend dans son sac, il prend des fils et des filles, et il les jette sur la terre. Il les jette dans le Brésil. Hein, Johan? Je ne sais pas où t'as jeté, mais t'as jeté à plein d'endroits. Nous sommes jetés. Il va en jeter au Guatemala. Il en jette aux États-Unis. Il en jette en France. Alors, on ne comprend pas toujours nos conditions. Nos conditions paraissent difficiles. C'est dur. C'est lourd où je suis. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne vis pas autre chose? Pourquoi mon ministère est différent? Pourquoi je suis ici? Alors il y a une mort qui se passe. Jésus lui-même a dit dans Jean, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter son fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que le grain de blé meure et à un moment donné, détrempé par la pluie du ciel. Vous avez vu dans le passage, toutes les fois il parle de l'eau. Tu visites la terre, là où tu es. Dieu est en train de visiter la terre juste par ta présence. Il est en train de visiter cette terre. Il t'a planté là et il dit à cette terre, je te visite. Et parce que je te visite, je t'envoie mon ambassadeur préféré. Celui que je chéris, celui que j'aime, celui que ça me coûte de me séparer de lui. Ça me coûte de le mettre dans cet endroit. C'est dur pour moi de me séparer de lui comme je me suis séparé de Jésus. C'était dur et je l'ai semé dans la terre. Je t'assure, c'est dur pour moi aussi de voir que tu es là et que tu pleures. J'en ai mal aux tripes, moi aussi. Mais là où je t'ai mis, je visite la terre par ta présence. Et parce que tu y es, j'y vais. Parce que tu y es, j'y suis. Et j'y plante mon drapeau. C'est comme sur l'Everest, les premiers qui arrivent, ils ont planté leur drapeau. Et là où tu es, le Seigneur, il plante son drapeau. Il dit, c'est ma terre. Elle m'appartient. C'est à moi, ce lieu. Et j'y ai mis mon ambassadeur préféré. Et je l'accompagne. Jésus, vas-y, Saint-Esprit, vas-y, les anges, allez-y, les chars de l'Éternel, allez-y. Tu n'es jamais seul là où tu es. Tu es accompagné de l'armée de l'Éternel. Et le Seigneur visite cette terre par sa présence et par de l'eau du ciel. Tu la combles de richesses, le ruisseau, l'eau, la fertilisation, tu l'arroses, tu aplanis les mottes, tu la détrempes, il y a des pluies. Vous vous rendez compte de ce que Dieu met le paquet? Le travail du grand balaboureur, du grand paysan. Vous vous rendez compte? Le travail de fertilisation du sol. Et qu'est-ce qu'il va chercher quand il fait tout ce travail dans le sol? Il cherche le petit germe. Il va chercher le germe qui est là. Et ce germe, c'est la vie qui est en toi. Et il va la faire saillir, il va la faire sortir. Elisabeth, tu veux bien montrer le dessin que tu as fait? Elle a fait un dessin ce matin juste avant que j'arrive. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler aussi. Je ne lui ai pas dit, hein, c'est une surprise pour elle. Viens. Tu veux expliquer?
Pas grave. Bon, je le tiens.
Ouais, vaut mieux faire passer, j'explique
un
d'abord.
Un arbre avec un sol et puis un ciel.
Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, l'arbre, il a trois couleurs au-dessus. Donc il y a une couleur qu'il a en haut et aussi sur le tronc. Et l'autre couleur, c'est en fait ce qui peut puiser dans le sol. Et il y a encore une autre couleur, c'est ce qui reçoit par au-dessus. Je sais pas comment expliquer.
C'est excellent. En fait, l'arbre, il puise de la terre. Il puise les ressources que Dieu a déjà placées dans la terre. La terre où tu es n'est plus une terre informée vide. C'est plus une terre informée vide, c'est une terre dans laquelle Dieu a semé plein de richesses. Mais simplement, ces richesses sont inexploitées. C'est un sous-sol riche, mais personne n'a découvert les richesses de ce sous-sol. Alors Dieu a envoyé des explorateurs. Dieu a envoyé ses miniers. Il a envoyé tous ses ministères, tout ce qu'on veut. Et il a dit, il y a des richesses là-bas. Et toi, il va falloir que tu ailles puiser ces richesses en tant que germe. Tu vas puiser ta nourriture. Tu vas puiser ça. Et tu vas grandir avec. Et tu vas pouvoir répandre ces richesses et faire vivre ces richesses à ton tour. Et pour ça, il va falloir que tu aies l'eau du ciel. L'eau du ciel, elle va te faire vivre et grandir. Elle va nourrir ton être. Amen. La graine jetée dans la terre reçoit la pluie qui l'a fait germer. Et la Bible nous parle d'un autre germe. Zacharie 6, 12. Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Est-ce que vous saviez que le nom de Jésus c'est Germe? Qui est-ce qui le savait? Jésus, tu t'appelles Germe. Et vous savez que c'est un des noms, dans un des passages, je ne sais plus si je l'ai noté, je ne sais plus si c'est dans Isaïe ou Jérémie, ou Zacharie, il relie le nom de Germe à la fin des temps quand il va venir régner. Alors vous voyez Jésus qui vient sur son trône, il vient pour régner, il va recevoir la couronne, il va commencer à recevoir la gestion des nations, et on va l'appeler Germe. Germe, Germe c'est aussi pousse, une petite pousse, la petite graine. La petite germe. Et Jésus va s'appeler Germe. Pousse. Petite pousse. Germe. Son nom est Germe. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas honte d'appeler son fils Germe? Petite pousse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas beaucoup d'apparence. Parce qu'il ne ressemble pas à grand-chose en lui-même. Il est comme le grain de sel, il n'y a pas énorme. Le photon de lumière, ça ressemble à rien. Mais quelle puissance! Quelle puissance de vie! Quelle puissance de vie dans cette petite graine! Et la graine, Jésus, ce petit germe, cette petite pousse, est destinée à remplir les nations par le fait qu'il se soit multiplié. Cette graine plantée en terre, elle a germé, elle a porté son fruit et elle s'est multipliée 100 par 100. Par centaines, par milliers, par dix milliers, par millions. Et ça a rempli la terre. Et le germe a rempli la terre de ses fruits. Comme Israël remplit la terre de ses fruits. Quand vous mangerez du pamplemousse israélien, un avocat israélien, un citron, vous rappellerez la parole, Israël remplira la terre de ses fruits. Mais vous rappellerez aussi que le germe a rempli la terre de ses fruits. Par sa mort et sa résurrection. Et vous êtes un des fruits, vous êtes une des graines. Et cette graine, à son tour, Dieu la plante en terre. Et il dit à cette graine, germe là où tu es. Germe, mon fils et ma fille. Commence à produire ta vie. Tu as été une graine. La destinée de la graine, c'est de mourir, d'être plantée en terre. Ma petite graine, je t'aime. Ça fait souffrir. Ça me fait souffrir aussi, je pleure. Mais je sais qu'au travers de ta mort, tu vas devenir germe. Et comme mon fils, tu seras un germe. Mon fils, il s'est appelé germe, il n'a pas eu honte d'être celui qui est comme une graine qui ressemble à rien, qui est mise dans une terre qui ressemble à rien. De devenir un germe qui ressemble à rien, mais un jour de porter son fruit. Tu as la même destinée que mon fils. Tu es graine, destinée de mort, et tu deviens germe, destinée de vie, destinée de multiplication. De plein potentiel. Le nom, le germe, il va régner en roi. Je l'appelle germe. Et quand vous verrez le roi, vous pourrez dire un jour, toi, tu t'appelles germe et tu es pourtant le roi. Il régnera en roi, il va prospérer. Et c'est lui qui amènera la justice et l'équité dans la terre, sur la terre entière. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Et il sera le sacrificateur, ça veut dire celui qui aime la nation, qui amène la nation devant le Père. Et qui prie pour elle, qui intercède pour elle. Et en même temps, il sera roi, et en même temps sacrificateur. Et il unira parfaitement les deux. ce qui était impossible en Israël. Jérémie 23, 5. Voici, les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il répète, il régnera en roi, il va prospérer, et il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Non, c'est un autre passage, l'autre c'était Zacharie. Et là c'est Jérémie, Dieu redit exactement les mêmes choses. Zacharie 3, 8, écoute Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car les hommes qui sont devant toi serviront de signe, et je ferai venir mon serviteur, le germe. Vous appellerez votre serviteur le germe ? Vous voyez un chef d'entreprise qui prend son meilleur cadre, le plus haut de ses cadres, et il le présente devant tout le monde et dit « Voici le germe !»
Wow.
C'est glorifiant, hein ? Est-ce que tu aimerais être appelé honoré comme germe ? Ça veut dire que tu es encore tout petit. Tu es tout petit. C'est la petite pousse. Tu ressembles toujours à rien encore. Et le chef d'entreprise qui dit « Oh, le germe !» Oui. Amen. C'est exactement ça. Dieu te présente au monde. Dieu est en train de vouloir te présenter au monde, de révéler ses fils et ses filles. Et c'est vrai que tu ressembles encore à rien. C'est vrai que tu n'as encore pas d'apparence. Tu n'as pas la gloire que tu imagines que tu devrais déjà avoir. Tu n'as peut-être pas encore la sainteté que tu penserais que tu devrais déjà avoir. Tu n'as pas la puissance que tu devrais avoir. Tu ressembles encore juste au germe. Et Dieu dit, voici mon germe. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me diras, qu'est-ce que tu me fais là ? Pourtant, c'est comme ça que Dieu traite son propre fils. Parce que dans le germe, il y a la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit. Et il y a la puissance de la multiplication qui est déjà là. Et ça va porter son fruit. Et ça portera son fruit parce que ça ne peut pas être autrement. La puissance de vie, elle fait que quand il y a les bonnes conditions, tout arrive, tout grandit, tout germe. Alléluia, Jésus. On peut prendre la 24, s'il te plaît, Aurélie. Isaïe 61, Dieu nous fait de nous un diadème, une huile de joie, un vêtement de louange. Il fait de nous des térébins de justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu n'es pas tout seul. Déjà dans le sac, tu es entouré de plein de grains qui ont la même destinée que toi. Ils ne savent pas encore où ils vont être plantés. Ils vont être tombés peut-être dans des endroits pierreux, peut-être dans des endroits difficiles, peut-être dans des ronces. Il y en a qui seront peut-être dans la bonne terre. Mais peu importe, ils ont la même destinée que toi. Ils vont à un moment donné, il faut qu'il y ait une petite mort, une mort à soi-même. Il y a une coquille qui se brise et puis la vie jaillit. Et ça va porter son fruit. Et alors, un jour, Dieu va venir révéler, il va venir régner sur la terre. Et qu'est-ce qu'on va voir ? On ne verra plus des germes, on verra une plantation. Une plantation d'arbres de justice qui auront grandi, qui seront devenus mûrs et qui sont une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. Isaïe 61, verset 11. Le Seigneur termine ce magnifique passage comme ça. Comme la terre fait éclore son germe, un jardin fait pousser ses semences. Ainsi, le Seigneur fera germer le salut et la louange aux yeux de toutes les nations. Devant toutes les nations, tu vas germer. Dieu n'attend pas la fin du monde. Déjà, aux yeux de toutes les nations, il est en train de faire germer son salut et sa louange. Il est en train de vous faire germer les uns et les autres. Là où Dieu vous a planté, tu grandis, tu deviens un arbre, tu deviens un ministère. Là où tu es, tu deviens ministère, tu deviens serviteur du roi. Avec son onction, avec son huile fraîche, avec les eaux du ciel, avec les richesses dans la terre. Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. On va s'arrêter là. Seigneur, merci parce que nous sommes tes fils et tes filles. Merci que la terre est ta terre. Merci que tu aimes cette terre. Merci parce que c'est vrai, elle est plus informe et vide. Elle est remplie de richesses. Et toi, tu regardes cette terre et tu ne viens pas pour la juger. Tu ne viens pas pour la détruire. Tu viens pas pour l'écraser. Tu viens pour la libérer. Tu viens, Seigneur, pour briser le joug qui a été mis sur elle. Tu viens pour arrêter la perte de destinée, pour tous les avortements de destinée qu'il y a dans la terre. Parce que tu veux rendre à chacun sa pleine destinée, à chacun son plein potentiel, afin qu'il devienne aussi un arbre dans ta plantation. Seigneur, merci parce que tu nous places, nous, à chacun, pour devenir ces libérateurs, les sauveurs, des héros qui vont délivrer les destinées, qui vont délivrer les perdus et qui apportent de l'espérance, de la vie, parce qu'il y en a une puissance de vie insoupçonnée, non connue, non limitée, qui a simplement la mesure de l'Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te disons, nous voici. Accomplis ton œuvre dans nos vies. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen.